fais les bons gestes.
Prouver, j'aimerais
conjuguer ce verbe au présent.
J'aimerais.
Tout le monde, nous sommes le 17 février, il est midi 30 et vous écoutez Bibi Poutine sur Principe Actif. Aujourd'hui, je suis rejoint par JC, par Jean et par Guillaume. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Jean, présente-nous ton invité s'il te plaît.
Oui, mon invité est un collègue, c'est Guillaume qui est responsable de la section jeunesse j'ai pensé l'inviter parce que on peut profiter de cette émission pour parler de projets, de bilans, etc. Ça peut être un laboratoire j'aurais pu avoir une autre invitée, Christine, qui est responsable du fonds adulte, mais point trop n'en faut pour cette fois. Christine viendra peut-être une autre fois.
Oui, car aujourd'hui nous allons parler du rayon BD en médiathèque, de son évolution, des perspectives et de tout ce qui concerne un petit peu ce rayon. Première question que je vais vous poser déjà, un petit peu à tout le monde, j'y sais compris. Pour vous, quelle est la place de la BD en médiathèque ?
Alors je vais laisser Jean et Guillaume commencer à répondre à ça. N'étant pas moi-même médiathécaire, je vous donnerai mon point de vue d'usager de médiathèque. Voilà.
Alors je vais faire dans le très général, je vais dire que la place de la bande dessinée en médiathèque, c'est que comme le mois dernier, la musique, elle n'allait pas de soi. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il était pas question en fait d'avoir de la bande dessinée en médiathèque. C'était pas le projet des professionnels de l'époque. Et puis la bande dessinée a commencé en section jeunesse, mais il faut se dire que pour des gens comme Goscinny, Uderzo, les créateurs de bande dessinée des années 60, en fait créateur de bande dessinée, c'était très dévalorisé par rapport à d'autres métiers autour du livre, d'écrivain, les auteurs de bande dessinée eux-mêmes n'étaient pas reconnus comme des gens sérieux avant longtemps. Et puis, ce qui s'est passé pour la bande dessinée, c'est un peu ce qui s'est passé pour la musique, c'est-à-dire qu'il y a eu le tournant des années 60, la culture de masse qui a émergé, les nouveaux médias qui sont devenus importants qui ont fait que la bibliothèque, c'était plus uniquement la culture du livre, mais c'était la culture d'autres cultures. Et donc la bande dessinée a progressivement pris sa place, mais je vais prendre un exemple. À Verneuil, quand la bibliothèque a été créée au début des années 80, en musique, il y avait déjà une discothèque toute prête à être proposée aux usagers. Elle n'a pas ouvert tout de suite, mais dès le projet initial, il y avait une salle complète avec des vinyles à proposer aux lecteurs. Et puis en section adulte, il y avait en tout et pour tout un bac de bande dessinée, donc même pas une étagère, mais un bac de bande dessinée. Et la bande dessinée, c'était pour les enfants, c'était pas sérieux, etc. Et puis ça a évolué et maintenant la place de la bande dessinée, elle est très très différente, et on va voir comment.
Guillaume, peut-être un regard, toi, en littérature jeunesse sur cette bande dessinée.
Oui, en littérature jeunesse, je pense qu'elle a toute sa place dans la mesure où, en fait, il suffit de regarder les chiffres et les emprunts en médiathèque. La section jeunesse, la bande dessinée est clairement en première place.
Devant les albums.
Devant les albums jeunesse, y compris devant les albums jeunesse. Et même, je dirais, la bande dessinée traditionnelle, parce qu'on a les bandes dessinées, on en reparlera, mais les mangas, les comics et d'autres. Et en fait, ce qui continue à sortir et ce qui sort énormément, bien plus que le reste, c'est les BD format traditionnel, tel qu'on l'entend quand on parle de bande dessinée, quoi, le format franco-belge, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, donc pour moi, la toute sa place en section jeunesse et c'est ça se voit dans les chiffres en fait. Après il y a une légitimité qui commence à être acquise mais qui est toujours à travailler, c'est-à-dire qu'on entend souvent des adultes dire à leurs enfants, bah écoute, c'est bien prendre des BD, mais prendre des vrais livres aussi. Bon, ça c'est quelque chose que tout bibliothécaire a entendu au moins une fois dans sa vie. Et à nous d'essayer de faire changer tout ça. Même si on est d'accord que la bande dessinée, c'est pas un roman, la narration est pas la même. Enfin voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, il y a une légitimité qui est à travailler encore, selon moi.
Alors en tant qu'usager, moi la BD en médiathèque, ça a largement toute sa place. C'est même d'ailleurs quelque chose que, à titre personnel, je consomme énormément en médiathèque. Il y a plusieurs éléments que tu évoquais, Guillaume, la narration qui est différente totalement. Ça ressemble presque plus à un film dans la façon dont s'est posée la bande dessinée. Il y a ce qu'on appelle aussi le roman graphique. C'est un terme qui est apparu qui est arrivé sur le devant de la scène une dizaine d'années, quelque chose comme ça, le roman graphique. On y reviendra dans un instant parce que je vous questionnerai sur cet élément du roman graphique. Mais la bande dessinée, elle est sortie aussi de la revue. Elle a été conçue pour de la revue à un moment, la bande dessinée. Elle a été éditée par petits épisodes. Le fait de la proposé en album, au bout d'un moment, je pense, a permis aussi cette entrée en bibliothèque, médiathèque. Jean, tout à l'heure, tu évoquais qu'il a fallu attendre l'après-guerre pour que la bande dessinée arrive dans le prêt ou dans le sérieux. Je suis pas très fort en date ou en évolution de la BD, mais il me semble qu'il y a une époque, elle était plutôt éditée en revue. Elle était feuilletonnée.
Avant les années 70, oui, c'était surtout.
Voilà, ça. C'était surtout du feuilletonnage en revue. Il y a de grandes revues qu'on diffusait de la bande dessinée. Donc finalement, le féru de BD, lui, était trouvait déjà son bonheur en revue avant de la trouver en album.
Ben. Justement, en fait, des bibliothèques, ça propose aussi des revues, donc on aurait pu proposer des revues de bandes dessinées, mais on ne voulait pas. Hein. C'était pas sérieux.
Oui. Non, mais c'était pas sérieux.
Ah, mais les auteurs, Goscinny, il est à l'origine de la création du syndicat des auteurs de bandes dessinées pour être mieux défendus, parce qu'ils étaient pas bien payés, ils étaient pas reconnus, ils étaient...
Et puis on a vu aussi l'évolution des thèmes en bande dessinée. Aujourd'hui, on trouve dans des rayons de médiathèque ou de librairie d'ailleurs, dans la bande dessinée, du documentaire par exemple, qui est arrivé plus récemment, des histoires de romans, des versions, des formats mixtes, des formats mixtes aussi, avec de grandes pages de texte et de la bande dessinée. Il y a pas mal de choses comme ça qui aujourd'hui sont plus modernes par rapport à ce qui était proposé, l'album standard. De, je sais pas c'est quoi, combien, 50 pages ou je sais pas, 45 pages, le format BD franco-belge notamment, comme on l'évoquait tout à l'heure, le dessin à gros nez, tout ce qui allait avec, c'était très codifié. Aujourd'hui je crois que la BD est sortie vraiment des codes ordinaires, les codes qu'on a connus le siècle dernier.
Oui.
Je pose la question du coup, le roman graphique, comment le définit en médiathèque? Qu'est-ce qu'est une bande dessinée? Qu'est-ce qu'est un roman graphique? Est-ce que c'est un synonyme ou c'est un peu plus subtil que ça?
Alors, avant de donner la définition que certains pourraient donner en médiathèque, le roman graphique, c'est quelque chose qui vient principalement des États-Unis à la base. Parce que comme vous le savez, vous avez les comic books aux États-Unis qui sont des petits formats de 22 pages qui sont vendus en librairie, enfin à l'époque, et surtout dans des librairies spécialisées, et c'est épisodique. C'est des petites séries qu'on suit comme ça chaque mois, aujourd'hui deux fois par mois, ça devient même de trop. Et les éditeurs, notamment sous l'impulsion, en particulier c'est pas le premier, mais c'est le plus connu, d'Alan Moore, ils ont décidé qu'ils voulaient publier de la BD, mais un petit peu à la façon de ce qu'on pouvait faire en Europe, c'est-à-dire une histoire complète d'un seul coup sur un grand format, un format long qui évidemment est vendu plus cher, et c'est là qu'est apparu le terme de graphic novel. Donc si vous vous souvenez de From Hell par exemple, Alan Moore dans les années 90 par exemple, c'est un des romans graphiques à la base les plus connus. C'est pas une question d'être un petit peu péteux ou quoi que ce soit, c'était vraiment une idée de format qui était différente de celle du comic book classique. On pense par exemple que Watchmen est un roman graphique. Non, Watchmen n'est pas un roman graphique. Watchmen, ça a été publié en format épisodique à la base. C'est vraiment From Hell, ensuite, qui a été publié en roman graphique. Et les éditeurs aux États-Unis en font encore de temps en temps, sachant que ça se démocratise de plus en plus, parce que financièrement, faire du comic book de 22 pages, ça devient un petit peu compliqué.
Et puis c'est les modes de consommation aussi des lecteurs. On n'est plus dans l'époque où on attend sa revue tous les 15 jours ou tous les mois. On n'est plus dans ce mode de consommation. Aujourd'hui, le lecteur aime bien avoir
un truc de complet,
voilà, toute son histoire. Pour si on veut feuilletonner, il y a des séries, il y a tout un tas de plateformes qui diffusent des séries, d'ailleurs qui sont mangées généralement par saison entière. On n'attend plus, en fait, on n'est plus non plus dans un monde où on attend la sortie du numéro, on aime bien voir tous les numéros d'un coup. D'où l'album aussi, qui et la revue qui perd un peu de vitesse.
Oui, la seule grosse revue aujourd'hui en BD adulte qui reste, c'est Métal Hurlant. Hein.
Mais sur une esthétique particulière quand même.
Ah oui, c'est très spécial, oui, c'est... Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver en général. Hein.
Il y a Fluide Glacial encore qui fait de l'épisodique sur les albums.
Oui, et je pense aussi à Spirou, qui continue à faire paraître les histoires longues d'abord en format épisodique avant de les sortir en album. Mais c'est à la marge en fait, même en jeunesse finalement, c'est plus la norme.
Et puis il y a des BD, je pense moi, quand j'étais gamin, les J'aime lire avec les Tom Tom et Nana notamment qu'il y avait à la fin, ça c'était conçu pour être que des épisodes. Je sais pas s'il y avait des parutions d'albums de ça.
Ben si, il y a des compilations justement de tous ces épisodes de Tom Tom et Nana, de Anatole Latulle par la suite.
Ouais, aussi. Ouais.
Des choses qui sont toujours très empruntées aussi et très lues parce que en fait dans les J'aime lire on lisait d'abord les Tom Tom et Nana quand même, faut être honnête.
Toujours avant d'attaquer le roman.
Voilà, ouais.
Qui était en épisode aussi.
C'est vrai, chapitré quoi. Mais si, si, ouais, c'est vrai que les Tom Tom et Nana et tous ces formats sont sortis qui n'ont pas été faits d'abord pour faire des albums en fait. Je pense que
c'était vraiment
l'épisode. Donc ça a été compilé tout ça, ouais.
Ouais, c'est pas pareil. C'est pas. Il y a eu un album, ça a été compilé. C'est un peu une démarche différente quand même entre des auteurs comme, je pense, ce qui est publié dans Métal Hurlant ou dans Fluide Glacial ou dans des revues de ce type-là, dont l'objectif est déjà l'album. En fait, initialement, et c'est découpé en épisodes pour les revues. Les Tom Tom et Nana, c'était un peu différent. C'est ça a tellement bien marché qu'on a compilé quoi.
Oui, il y a peut-être un espoir commercial derrière.
Oui, c'est un peu le cas aujourd'hui avec la dark romance que Jean aime tellement. Au départ, c'est de la web novel diffusée en format épisodique. Et ce qu'on a, nous, en format papier, c'est simplement des compilations avec de jolis effets de fabrication et tout ça qui attire l'œil. Mais c'est de l'épisodique au départ.
Et d'ailleurs, ça me fait me demander... alors la bande dessinée en ligne, alors, parce que je suis pas très au courant de tout ça, ouais. Ça c'est encore plus récent. Comment ça marche alors?
Ça marche de la même façon. On a des plateformes, on a quelques épisodes qui sont gratuits. Ensuite, il faut payer évidemment. Et les compiles, elles sortent. Voilà. On en a quelques-unes, par exemple ici. J'ai plus de titres en tête, mais on a quelques compiles de web novel et ça. Tendance à très bien marcher parce que évidemment quand les premiers épisodes sont gratuits il n'y a pas besoin de passer à la caisse, donc pour un ado par exemple c'est plutôt intéressant.
Oui, et on retrouve pour le coup le format dont parlait JC, à savoir que certains webtoons sont faits pour être alors pas forcément pour être publiés en album tout de suite, mais sont des feuilletons, enfin sortent par tranche et forment un tout, une histoire complète, comme une série finalement.
Oui, surtout que la mise en page est pensée pour être scrollée, et pas du tout lue sur un format BD comme nous on l'entend.
C'est un peu comme pour la musique, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, on s'affranchit de l'édition, on s'affranchit de tout un tas de verrous. Et aussi de validation, hein, parce que sans validation, effectivement, on peut avoir à boire et à manger dans les publications, notamment numériques. Mais c'est aussi un accès plus facile à la diffusion. Comme pour la musique, en fait, hein, finalement, je m'affranchis d'avoir un éditeur, une impression et tout ça, et je peux envoyer quasi en temps réel mes productions.
Oui, mais comme tu dis, on s'affranchit aussi de pas mal de choses, notamment du contrôle qualité, parce qu'en webtoon,
il y a
vraiment à boire et à manger, il y a des choses qui sont absolument horribles.
Non, mais tout à fait. C'est l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que c'est plus dans les mains des décideurs, des gros, j'allais dire labels, des gros éditeurs, mais en même temps, il y a le contre-coup de, il y a à boire et à manger. Faut faire son tri.
D'ailleurs, je parlais un petit peu des ados. Hein, j'avais une question pour Jean et pour Guillaume. Pour ce qui est de la classification adulte et jeunesse, par exemple, tout ce qui est manga, BD ado, vous les traitez comment ? Est-ce que pour vous, ça a plus sa place en jeunesse, en adulte ou dans les deux ? On fait au cas par cas.
Alors, c'est une question compliquée qu'on est. On est constamment en train de se la poser, en fait, parce que. En fait, ça, c'est une question qui rejoint aussi la littérature jeunes adultes et ce genre de domaine. En fait, il y a une différence entre le public auquel se destine l'ouvrage, le document, le public visé par l'éditeur, en fait, et le public qui lit concrètement sur place ce type de documents. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est les Walking Dead.
Ça plaît aux ados, ça.
Qui sont clairement pour un public adulte, mais qui sont lus, alors effectivement par des adultes, mais aussi par des ados et parfois des jeunes ados.
Ici, chez moi, c'est lu exclusivement par des ados. Les adultes, ils le prennent pas.
Donc la question, c'est en médiathèque, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on s'en tient à la ligne éditoriale, à savoir c'est fait pour les adultes et donc ça va en adulte ? Ou est-ce qu'on va vers le public qui va de toute façon le lire, à savoir est-ce qu'on le met plutôt en jeunesse ? C'est une question qui est... Et puis il y a des choses plus ou moins... là, Walking Dead, c'est quelque chose d'assez tranché, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines. Et donc voilà, c'est en fait la question reste ouverte. Hein. Je pense que je sais pas, Jean, tu veux intervenir ?
Non, mais Walking Dead, c'est une série qui est en section adulte. Hein, chez nous, donc ça s'est passé comme ça. On a la série complète parce qu'il y a beaucoup de tomes. Et donc Walking Dead, c'est en section adulte. Et pour prendre un autre exemple, la série Lanfeust. Elle est aussi en section adulte et parce que on considère que c'est un humour très 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 cacaproute, quoi. C'était très très ado dans l'âme, quoi. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut la mettre au milieu de bande au milieu des Schtroumpfs et puis de séries pour les plus jeunes, parce que en jeunesse il faut les romans jeunes adultes sont entre guillemets pour un public vraiment jeunes adultes et il faudrait en fait idéalement qu'il y ait un fond bande dessinée jeune adulte en fait
Sur certaines classifications, il y a le J1, J2, J3, vous savez, les pour les tout-petits, les moyens, les plus grands. Ça fonctionne aussi en BD, ça, les J1, J2, J3 J, c'est jeunesse, hein, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, c'est en fonction de l'âge, les 3, 6 ans. Enfin, j'en sais rien après comment ça se découpe, mais c'est ça l'idée, non, sur les albums, notamment.
Alors, je vais laisser la parole à Guillaume, parce que nous, on fait pas cette différence de J1, J2, J3.
Les médiathèques d'Evreux font ça, exemple.
Ouais. Et ça, par exemple, c'est un très très bon indicateur quand on va avec ses enfants. Ah non, tu prendras maximum J2. Vous voyez, c'est en fonction de l'âge. Non, mais ce qui permet d'avoir un fond ado sans aucun scrupule.
En fait, J1, J2, J3, on a arrêté. On a fait une classification plus simple. Et en BD, il y a la section jeunesse et la section adulte. Après, le catalogage permet quand même de créer une statistique BD ou manga adolescent. Donc généralement, on essaye de l'indiquer. Après, souvent, c'est au cas par cas. Hein. Des fois, il y a des jeunes qui viennent avec leurs parents, ils veulent absolument emprunter ça. Moi, je fais feuilleter la BD aux parents. S'ils sont OK, bon, bah, ouais, ils peuvent le prendre. Mais je les laisse feuilleter avant, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Après, c'est au choix de chacun. Puis, évidemment, quand les personnes, les jeunes sont dans la médiathèque, on ne s'amuse pas à les contrôler ce qu'ils sont en train de lire. On a un peu autre chose à faire. Donc, plus généralement, quand ils veulent faire ça, ils vont se mettre dans le fond. Donc, on n'a pas forcément l'occasion de les voir, surtout s'il y a du monde. Bon, c'est un peu spécial, disons.
Je vous propose une pause musicale et juste après nous revenons dans l'angle mort en fait que nous n'avons pas abordé, c'est celui du manga. On y reviendra dans un instant parce que peut-être aussi c'est une histoire de nos âges. Mais en tout cas, j'insiste, nous reviendrons sur la question du manga juste après et on s'écoute pour la bonne humeur, Don't Worry, Be Happy du célèbre Bobby McFerrin.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Et ben voilà, c'est Guillaume qui voulait nous apporter le soleil et la quiétude aujourd'hui. C'est,
ouais, ça change un peu. Ouais.
Non, mais c'était très très bien fait. Nous poursuivons. Ah, c'est dommage. L'autre titre qu'on aura un peu plus tard pouvait faire une belle transition. Mais c'est pas grave. J'ai dit tout à l'heure que j'aurais bien aimé qu'on revienne sur le manga. On a parlé beaucoup de la BD. On a parlé de la franco-belge. On a parlé du comics. On a là légèrement évoqué le manga, sachant quand même que c'est une des lectures les plus populaires chez les adolescents, le manga, avec cette lecture de droite à gauche,
épisodique
également, des grandes séries, c'est One Piece, je ne sais plus à combien on en est, mais c'est interminable.
115
Voilà, 115 tomes, enfin des trucs comme ça. C'est cette question du manga, forcément, a dû être abordée en médiathèque à un moment.
Et le cauchemar des petites bibliothèques, les séries comme One Piece ou Naruto, évidemment, parce que ça prend vraiment trop de place.
Bah puis la question, c'est est-ce que une médiathèque a pour vocation de mettre une série de 110 épisodes ou pas ?
Oui.
Ben, et puis ça prend de la place, oui et non, parce qu'en en fait, ils sont rarement dans les étagères. Ils sont souvent empruntés.
Exactement.
Donc, et puis, bah après, les séries, c'est difficile à prendre en cours. C'est-à-dire que quelqu'un qui est une petite médiathèque qui veut acquérir les One Piece maintenant, effectivement, faut le prévoir dans le budget, quoi. Les petites médiathèques qui ont pris le train en route, ma foi, c'est parti, on continue, et puis de temps en temps, il y a un épisode qui sort, et on l'acquiert en même temps que d'autres, quoi. C'est surtout ça la difficulté, je pense, dans les médiathèques. Parce que One Piece a acquis le statut de classique au même titre que Dragon Ball, Naruto, ce genre de choses. Et malheureusement, c'est des séries finies ou bientôt finies pour One Piece. Donc ça veut dire, si on la veut, si on n'en a aucun, il faut tout acheter d'un coup, quoi. Après, faut, sur les autres séries, il faut prendre le train en route et se tenir informé de ce qui fonctionne, de ce qui sort, de ce qui est demandé, de ce qui va sortir. Pas mal aussi se tenir informé des animes. Parce que c'est très lié à la sortie des animés sur les plateformes. À Verneuil, on a les Demon Slayer, par exemple, et j'en parlais tout à l'heure, mais qui ont très bien fonctionné, notamment à la sortie. Alors, j'ai pas trop suivi, moi, les animes, mais je crois que c'était la saison 2 qui sortait, et en fait, le manga papier est déjà fini, mais une nouvelle saison qui sort sur une plateforme fait qu'on a du public qui revient emprunter les Demon Slayer.
Et un film en fin d'année dernière aussi.
Ah oui, voilà, ouais.
Comment on aborde cette question du manga dans la BD, de la BD dans le manga, de l'organisation BD-manga ? Parce que même si le manga est de la BD, ça reste un style particulier.
Oui, puis c'est plus pratique de les séparer parce que c'est vraiment un petit format. C'est le format d'un livre de poche ou d'un roman classique. Donc évidemment, si c'est mis à côté de la BD franco-belge ou même du comics, visuellement, c'est noyé dedans. C'est pas très pratique, donc c'est plus intéressant quand même, enfin, de mon point de vue, de les séparer pour que chacun ait bien sa propre visibilité. Déjà que nous ici, on sépare les petits formats BD comme Mortel Adèle, on les met à part en bout de rayon, parce que pareil, dans les intercalaires, c'est noyé au milieu des grandes BD. Donc visuellement, il faut quand même que ce soit bien distinct.
Malgré tout, ça reste de la bande dessinée. Et il faut pas qu'il soit trop loin. Nous, on a fait le choix à Verneuil de faire un coin vraiment bande dessinée, manga, comics, roman graphique, qui est dans le même espace, centré autour des mêmes assises. Donc il y a vraiment des coins pour se poser, pour lire. Ambiance Fnac début des années 2000, où tout le monde s'assoit avec son petit manga et feuillette. On a voulu recréer ça et inclure le manga là-dedans, avec bien sûr du mobilier qu'il faut s'adapter ou adapter, à savoir que le manga, on les trouvera forcément plutôt dans des étagères que dans des bacs. Et puis les mangas, c'est pas grave de pas voir la couverture, en fait, tant qu'on sait que la série est présente, et c'est parti. Voilà, donc c'est effectivement, ça demande de l'aménagement, mais malgré tout, voilà, pas loin des BD, parce que y a un public aussi qui passe de la BD au manga. Je disais tout à l'heure que les BD format BD classique sont plus empruntés que les mangas, oui, mais par les plus jeunes en fait, qui vont arriver vers le manga par la suite. Donc l'idée,